Chapitre 48. Sally Fuller était une femme dans toute sa splendeur, capable de faire deux choses en même temps avec la même attention, à savoir suivre une rediffusion de La roue de la fortune à la télévision, tout en gardant un œil par la fenêtre sur les mouvements dans sa cour. Son époux, s'il avait encore été là, n'aurait pas manqué de lui faire remarquer qu'à occuper son cerveau à tant de choses, elle finirait avec la maladie d'Alzheimer. Mais finalement, à poser son cul tout le temps sur son fichu rocking chair, c'était lui qui s'était envolé d'un cancer du côlon, non sans une ironie dont Sally ne s'autorisait pas à rire, du moins pas en public. Elle avait toujours accordé aux apparences une grande importance. C'était vital, dans une bourgade comme Carson Mills, ce que les autres pensaient de vous. Car c'était ce qui vous définissait, ce qui resterait de vous après votre mort. Le souvenir. C'était pour cela qu'elle n'avait jamais rien dit de la violence de son mari. Elle en était devenue experte en maquillage de bleu et prétexte en tout genre. Tout aussi impensable de le quitter. Pendant 46 ans, elle avait courbé l'échine et encaissé. Et renoncé à bien des rêves qui n'étaient pas au goût de la brute. Un mois et un jour après l'avoir enterré, Sally Fuller déposait sa première petite annonce pour trouver un locataire. Elle avait toujours voulu tenir un petit hôtel, accueillir les gens de passage, les entendre parler avec leurs accents et deviner leur provenance, écouter leurs histoires, préparer leur chambre avec soin pour qu'ils s'y sentent bien. Elle s'était mise dans l'idée que sa signature serait un brin de lavande sur les oreillers pour les parfumer. Mais, à 65 ans, elle n'avait plus le courage de se lancer dans un tel défi. Les deux chambres de l'étage lui suffisaient amplement pour proposer un équivalent plus modeste, dans une formule encore plus personnelle. C'était la petite fille de sa voisine qui lui avait montré comment faire avec l'ordinateur pour créer une annonce. L'hiver, elle n'avait personne, mais lorsque se profilaient les beaux jours, un représentant ou des randonneurs réservaient en ligne. Parfois, des gens de passage pour un mariage et même quelques habitués qui revenaient chaque année. Et Sally se faisait une joie de tous les recevoir. Lorsque le couple avait débarqué sans réservation, Sally avait immédiatement remarqué que ça n'allait pas fort. C'était évident. Leurs traits tirés, les yeux rougis de larmes et d'angoisse, sans valise ni voiture, ils avaient tout du duo de criminels en fuite. Et sa première intention avait d'ailleurs été de se rapprocher doucement du téléphone pour prévenir le shérif. La fille, notamment, était dans un sale état. Ravagée était le terme. Sally avait cru reconnaître un langage corporel qu'elle ne connaissait que trop bien et avait jugé très sévèrement l'homme sur le coup, avant de se reprendre. Ses gestes pour elle, son attention, ses précautions, ce n'était pas l'attitude d'un mari violent, même dans les phases de réconciliation. Lui était sincère, très inquiet même, il prenait grand soin d'elle. En quelques secondes, le couple avait touché Sally et son cœur s'était ouvert. « Nous n'avons pas d'argent, madame. » avait dit l'homme. Et nous ne voulons pas vous attirer d'ennui, alors nous ne resterons pas, mais je vous en supplie, pour mon ami, auriez-vous un peu d'eau et de nourriture à nous offrir? Sally avait fait mieux que cela. Elle avait enfilé son tablier et préparé sa meilleure tourte. Tant pis si le shérif en personne débarquait pour l'accuser d'héberger des fugitifs, il y avait des regards qui ne mentaient pas. Ceux de ces deux-là n'avaient rien de monstrueux. Au contraire. Et ce qui avait commencé autour d'une tourte se poursuivait à présent, 6 jours plus tard, dans le plus grand secret. Jake et Laurette lui avaient raconté leur folle histoire. Sally avait du mal à tout comprendre, même à croire ce qu'elle avait bien entendu. Toutefois, elle se sentait incapable de les jeter dehors et prenait très à cœur sa mission de les cacher. Alors, quand il avait fallu mentir à la détective privée, elle l'avait fait avec le même aplomb que lorsqu'elle racontait s'être cognée contre le coin de la porte après s'être fait corriger par son mari. Jake et Laurette ne sortaient jamais, ou presque. Lui promettait que ce serait bientôt terminé, qu'il partirait dès qu'un journaliste aurait publié leur histoire. Mais ce soir-là, il avait expliqué qu'il devait s'absenter, que leur situation était compromise. Il rentra à minuit, une ombre dans la cour, et gagna la cuisine par la porte de derrière. Le voir surgir dans les vêtements de son mari décédé causait toujours un petit choc à Sally. Il la salua. « Est-ce que vous avez obtenu ce que vous espériez ? » demanda-t-elle. « Il me semble. Vous serez bientôt débarrassé de nous. Merci pour tout ce que vous faites. Sans votre aide, nous serions morts. » Sally n'était pas particulièrement pressée de les voir disparaître. Ils étaient touchants et ce mystère l'amusait presque. Il avait joint les mains devant lui en signe de prière pour la remercier, et il était allé se coucher. Laurette dormait déjà lorsque Jake la rejoignit dans le lit. Il ne savait que penser de cette Kat Cordell, sinon qu'elle était leur unique espoir. Elle connaissait le secret de Lena sur sa petite sœur morte. Or, Lena n'était pas du genre à le partager avec le premier venu. Il avait fallu que Jake gagne sa confiance pour qu'elle lui en parle. C'était un argument pour croire en Kat Cordell. Son plan tenait la route. C'était simple, avec peu de risques qu'un imprévu vienne tout compromettre. Jake hésita à réveiller Laurette pour le lui raconter, mais il s'en abstint. Pour une fois qu'elle ne gémissait pas dans son sommeil, elle méritait encore un peu de ce repos profond et paisible. Ils auraient tout loisir de bavarder demain à l'aube. Jake ne dormait jamais tard, trop angoissé. Chaque craquement du parquet le réveillait en sursaut, le moindre pot d'échappement dans la rue, et il était debout à la fenêtre, le cœur affolé. Il n'était pas fait pour cette vie de traque. Il fallait qu'ils en sortent le plus vite possible, ils ne tiendraient plus longtemps dans cet état. Tandis qu'il ressassait le plan de fuite du lendemain, Jake ne remarqua pas l'araignée filandreuse qui grimpait sur le pied du lit, ses longues pattes dansant frénétiquement pour gagner en vitesse. Il se demandait si Oklahoma City était véritablement l'option la plus évidente. Kat avait annoncé vouloir changer d'état pour commencer et rallier une grande ville. L'araignée, parvenue sur le matelas, glissa sous la couette sa forme brune et terne qui dessina une minuscule bosse, presque imperceptible malgré ses mouvements rapides. Quitter le Kansas déjà était préférable, admit Jake. Kat n'avait pas tort. À son tour, un interminable mille-pattes enroula ses anneaux luisants sur la structure du lit, rivant les crochets de ses membres sur le bois pour se hisser, et il rampa, long, dodu, presque obscène, sous l'oreiller de Jake. Kat avait mentionné des contacts dans la presse de New York. C'était bien ça, New York, pratique pour se noyer dans la foule, loin de Carson Mills. Plusieurs coléoptères se joignirent au premier venu. Visqueux pour certains, d'autres avec des antennes fouineuses, des pattes interminables et garnies d'ergots pointus. Et une deuxième araignée, encore plus grosse que la précédente, ses huit bras chitineux se dépliant avec une agilité déconcertante compte tenu de sa taille. Ses chélicères palpitaient. Tous avaient investi la pièce sans un son. Armada protéiforme qui profitait du manque de vigilance de l'homme allongé pour se rapprocher, toujours plus près. De minuscules bosses remontaient sous la couette en direction de Jake. Puis un bruissement au fond de la chambre le fit se redresser sur ses coudes. Dans la nuit, il ne distinguait rien mais écouta attentivement. Les créatures dans le lit avançaient encore. Ne percevant plus aucun son, Jake se rallongea. Sally a dû laisser une fenêtre ouverte pour aérer et a oublié de la refermer. Un voile obscur ondula sur le parquet sans que Jake ne l'entende. Il déferla sur le mur, telle une vague au ralenti, avant de se casser sur le matelas du côté de Laurette. Jake crut qu'elle bougeait et ne s'en alarma pas. Pas plus qu'il ne comprit ce qui se passait lorsqu'elle se mit à remuer et à gémir, songeant encore à un de ses nombreux cauchemars. C'est reparti. Elle ne fera plus jamais une nuit normale. Mais lorsqu'elle fut prise de convulsions, Jake l'attrapa par les épaules. « Laurette ! Hé, Laurette, réveille-toi » Il se pencha vers la lampe de chevet, alluma. Son ami était tourné vers lui, toujours endormi. « Tu m'entends ? Allez, me fais pas flipper, réveille-toi » insista-t-il. Les yeux de Laurette roulèrent sous ses paupières et sa langue heurta l'intérieur de sa joue. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Un grouillement horrible, humide et affamé remonta dessous la couette et Jake se mit à trembler de tout son être. Les dards s'étaient plantés, le venin injecté, les mandibules avaient découpé et des hordes vicieuses pénétraient la chair par tous les orifices possibles ou s'enfrayant de nouveau, et une puissante marée noire avait inondé la malheureuse qui n'avait pu réagir, la dévorant de l'intérieur. Les paupières de Laurette s'ouvrirent sur des orbites vides. Des larmes de sang coulèrent à la place et une nuée d'insectes en jaillit en même temps que la grosse araignée charnue sortait d'entre ses lèvres. Jake voulut hurler, mais aucun son ne remonta de sa gorge. Sa raison l'avait déjà lâché. Il savait ce qui l'attendait. Un brin de lavande séchée tomba dessous l'oreiller.